21h à Bourem et à Ouagadougou, 22h à Kano et à Maïdougouri. Ravi de vous retrouver pour cette première émission de l'année 2015. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous, aujourd'hui au sommaire de Sahel Plus. Suite de nos émissions consacrées aux perspectives de l'année 2015, le Nigeria peut-il lutter plus efficacement contre Boko Haram ?
Boko Haram est vraiment quelque chose inhérent à la politique et aux inégalités criantes régnant dans ce pays.
Nous entendrons l'analyse de Jean-Christophe Servant. Nous ferons ensuite le point sur la fameuse muraille verte du Sahel qui doit combattre l'avancée du désert.
Il ne s'agit pas donc de planter de Dakar à Djibouti. En plus des activités de lutte contre la désertification, on a un ensemble d'activités de développement socio-économique dans ces zones.
Abdoulaye Dia, secrétaire exécutif de l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. L'ensablement qui menace de nombreux villages africains, reportage à Bourem au Mali. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Et pour ce bulletin d'information, Idrissa Seludia, au Nigeria, un kamikaze s'est fait exploser jeudi pendant l'office du jour de l'an devant une église évangéliste de Gombe, blessant plusieurs gens. Personne d'autre n'a été tué. L'homme arrivé à moto a déclenché l'explosion devant l'église après avoir été empêché de pénétrer dans le bâtiment. Aucun groupe n'a revendiqué cette attaque, comme celle de mercredi contre des casernes de l'armée dans la même ville, mais on soupçonne Boko Haram. Au Mali, des roquettes ont été de nouveau tirées mercredi contre un camp utilisé par les forces maliennes et internationales à Tessalit, dans l'extrême nord-est du pays, sans faire de victimes, a appris l'AFP jeudi, auprès d'une source du service de communication de l'opération française Barkhane. Cette opération mise en place le 1er août dernier vise à traquer les groupes islamistes sur une zone couvrant 5 pays, Mauritanie, Mali, Niger, Tchad et Burkina Faso. Le camp de Tessalit avait déjà été visé lundi par des roquettes ou obus dans une attaque revendiquée par le groupe djihadiste Ansar Dine du Touareg Iyad Aghali. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a effectué une visite surprise jeudi dans l'extrême nord du Niger, tout près des premiers sanctuaires djihadistes libyens, contre lesquels Paris tente de mobiliser la communauté internationale. Venu de N'Djamena, la capitale tchadienne, où il avait réveillonné mercredi avec des soldats français, M. Le Drian s'est posé à bord d'un avion de transport militaire sur une piste de la base française en cours d'installation à Madama, a constaté l'AFP. Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso s'est félicité dans son message du Nouvel An du débat sain sur la Constitution après que son parti s'est prononcé pour un changement de ce document afin de lui permettre de briguer un nouveau mandat en 2016. Pour le président Sassou Nguesso, personne n'a le droit d'empêcher une telle confrontation d'idées. C'est cela la démocratie, a-t-il dit, selon l'AFP. La majeure partie de l'opposition appelle M. Sassou Nguesso, qui cumule au total 30 ans de pouvoir, à respecter la Constitution dont il est, et je cite, « le géniteur et gardien ». En Égypte, un tribunal a ordonné la tenue d'un nouveau procès pour les 3 journalistes emprisonnés d'Al Jazeera. La Cour de cassation a annoncé sa décision, mais n'a pas fixé de date. En attendant, nos 3 confrères resteront en prison. Ils avaient été arrêtés en décembre 2013 dans un hôtel du Caire et reconnus coupables en juillet dernier de soutien à l'organisation interdite des frères musulmans. Pour un porte-parole d'Al Jazeera, plutôt que de perpétuer cette injustice et ternir l'image de leur propre pays, les autorités égyptiennes devraient libérer rapidement nos confrères.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Afghanistan, les autorités ont ouvert une enquête pour savoir si des soldats ont délibérément tiré une roquette sur une cérémonie de mariage, tuant au moins 26 personnes hier soir. Il y a eu aussi des dizaines de blessés dans cette attaque qui aurait été lancée à partir d'un point de contrôle non loin de là, dans la province méridionale de Helmand. Selon les Nations Unies, la plupart des victimes sont des femmes et des enfants. L'Afghanistan assume pleinement la responsabilité de sa propre sécurité après la fin officielle d'une mission de combat de 13 ans des États-Unis et de l'OTAN et qui visait les rebelles talibans. À Shanghai, en Chine, une bousculade à l'occasion de la célébration du Nouvel An a coûté la vie à au moins 35 personnes et fait des dizaines de blessés. Selon des témoins, la bousculade a commencé quand la foule s'est ruée pour attraper des faux dollars lancés depuis une fenêtre. L'incident a eu lieu sur la très populaire promenade du Bund. Le leader nord-coréen Kim Jong-un se dit ouvert en élargissement du dialogue et de la coopération avec la Corée du Sud. Dans son discours traditionnel à l'occasion du Nouvel An, M. Kim s'est également dit prêt à reprendre les pourparlers de haut niveau avec Séoul, mais on ne sait pas au juste à quel niveau de tels pourparlers pourraient avoir lieu.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur VOA Afrique, direction le Nigeria où le groupe djihadiste Boko Haram fait régner la terreur depuis 2009. La lutte contre Boko Haram s'est avérée un échec jusqu'ici, l'année 2014 culminant avec la fuite de certains soldats au Cameroun devant les avancées de Boko Haram et surtout l'enlèvement de plus de 250 lycéennes dans la ville de Chibok, tombé depuis aux mains de la secte islamiste. Le Nigeria doit-il changer de stratégie face à la montée en puissance de Boko Haram ? Jean-Christophe Servant est journaliste et spécialiste du Nigeria.
Tout va dépendre évidemment si déjà le président Goodluck Jonathan, donc qui se représente, contrairement à ce qu'il avait pu dire il y a de cela 3 ans, va faire quoi. C'est à la fois lié évidemment au degré de violence qui pourrait se développer en particulier dans le nord-est du Nigeria jusqu'aux élections générales, du budget avec une forte part consacrée effectivement à la défense et une forte part surtout consacrée à la sous-traitance de la défense au profit du sécuritaire privé. On est plutôt dans l'ordre de la supputation, un petit peu comme ces élections que de nombreux observateurs, en premier lieu l'International Crisis Group, annoncent comme sans doute violentes.
Est-ce que ce qui ne va pas faire bouger les choses, c'est le risque de contagion régionale ?
C'est une logique qu'on connaît assez, évidemment. Boko Haram est vraiment quelque chose inhérent à la politique et aux inégalités criantes régnant dans ce pays immense de 170 millions d'habitants. Donc c'est vraiment quelque chose complètement, à la base en tout cas, c'était quelque chose d'inhérent effectivement à la situation sociopolitique et économique du Nigeria. Après, on a vu apparaître évidemment ces 3 dernières années, à l'instar d'Ansaru, des ailes ou des factions beaucoup plus internationalistes, beaucoup plus aligné sur un agenda djihadiste international. Mais il reste que Boko Haram, malgré les incursions effectivement en territoire camerounais ou évidemment du côté de Zinder, Maradi, Diffa, côté nigérien et un petit peu effectivement sur les îles du lac Tchad, Boko Haram reste malgré ce quelque chose de profondément nigérian. Après évidemment autour, pour de nombreux gouvernements tels que ceux de Paul Biya au Cameroun ou d'Idriss Déby au Tchad qui sont des chefs d'État mal élus et qu'ils utilisent aujourd'hui la caution du terrorisme comme d'autres prédécesseurs dans d'autres régions, effectivement, du continent africain, comme une manière, finalement, de passer comme les seuls à même de pouvoir lutter contre cela et de rester en place au pouvoir. C'est une question qu'on peut aussi se poser. Mais il est clair que Boko Haram, aujourd'hui, d'un côté, arrange, malgré, effectivement, les interventions militaires menées par Boko Haram, par exemple, au Cameroun, arrange pas mal de chefs d'État de la sous-région. Ça leur permet de justifier un petit peu une politique de répression et une politique de militarisation constante effectivement de leur pays et d'autre part dérange beaucoup aujourd'hui le Nigeria qui évidemment voit sa réputation internationale qu'il a essayé de remonter ces dernières années se réduire effectivement à ce qui se passe seulement dans le nord-est du pays.
Jean-Christophe Servant, journaliste et spécialiste du Nigeria. Dossier environnemental, dans la seconde partie de l'émission, nous avons choisi de faire un point sur un grand projet sahélien, la Muraille Verte, qui se veut une grande barrière végétale courant de l'océan Atlantique à partir de la Mauritanie jusqu'au golfe d'Aden et Djibouti. Un projet global qu'il ne faut pas réduire à un reboisement de la zone ou à une simple lutte contre la désertification. Il s'agit aussi de permettre aux populations d'assurer leur résilience grâce à des activités économiques, les fameuses activités génératrices de revenus, pour assurer un développement socio-économique de la zone et lutter contre la pauvreté. Abdoulaye Dia est le secrétaire exécutif de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte.
À l'état actuel, tout ce qui est préalable sur le plan institutionnel et juridique, tout ceci a été réalisé. Les financements donc les programmes ont été ficelés, aussi bien au niveau régional qu'au niveau de chaque pays. Et actuellement donc, nous sommes en train de démarrer effectivement dans la plupart des pays des activités visibles sur le terrain, notamment des activités de reboisement, mais également des activités génératrices de revenus.
Alors c'est un beau projet, hein, mais qui a quand même eu du mal à se mettre en place. Ça fait quand même des années qu'il a été lancé. Certains se sont même posé la question sur le fait qu'il avait été abandonné. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ?
Mais personne n'a jamais abandonné. C'est un projet qui a été initié par les Africains pour pouvoir évidemment faire face aux difficultés de la désertification et du changement climatique. Au début, il y avait un problème de compréhension. C'est pour ça que j'ai tenu donc à réaffirmer qu'il ne s'agit pas donc de planter de Dakar à Djibouti, mais c'est une approche écosystémique, une approche intégrée où en plus des activités de lutte contre la désertification, on a un ensemble d'activités qui assurent également le développement socio-économique dans ces zones. Comprenez que c'est un projet en fait qui a commencé à être opérationnalisé à partir de 2010. Et il y a tout un ensemble de préalables en termes d'explication pour une appropriation, évidemment, de ce projet par les communautés bénéficiaires. Le projet a pris maintenant son envol et dans la plupart des pays, il y a des réalisations concrètes qui sont visibles sur le terrain.
Mais est-ce que réunir autour d'un projet commun 11 pays, tous 11 pays et 11 gouvernements extrêmement différents, ce n'est pas très difficile ?
Ce n'est pas difficile dans la mesure où, à la base, c'est le même objectif, la même vision que partagent donc chefs d'État et de gouvernement. Et comprenez également qu'à travers ce projet, ces chefs d'État veulent également réaffirmer un certain leadership dans la prise en charge de leurs problèmes.
Alors en 2015, les 11 pays concernés doivent définir un nouveau plan quinquennal. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Nous allons passer à la phase opérationnelle après avoir évalué à mi-parcours tout ce qui a été fait et nous allons réorienter surtout sur des activités directes et sur le terrain. Donc ça va être la phase active d'opérationnalisation.
Et alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire quelques exemples de réalisations qui vont voir le jour en 2015 ?
Nous avons défini un ensemble de portefeuilles. Quatre portefeuilles. Le portefeuille donc développement communautaire et gouvernance locale avec un ensemble de projets. Tout ce qui est recherche et développement sur, par exemple, la valorisation de certains produits forestiers qui existent dans cette zone-là. Il y a un produit bien connu donc à l'échelle donc du Sahel. Prenons par exemple le balanites. Le balanites, donc, c'est un fruit connu bien dans le Sahel et que les analyses chimiques montrent bien la valeur économique de ces espèces, de cette espèce-là, aussi bien donc en termes donc d'huile, mais également donc pour aussi bien pour le bétail également. Le fait de faire d'approfondir la recherche pour voir quels sont les produits dérivés, un produit qui a, par exemple, l'huile de balanites a autant de vertus que l'huile d'olive. Ceci donc est un élément parmi tant d'autres qui devrait nous permettre, dans le cadre de la recherche-développement, nous pouvons donc élargir cette gamme et produire évidemment une grappe industrielle permettant aux populations évidemment d'avoir des activités génératrices de revenus.
Abdoulaye Dia, secrétaire exécutif de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur VOA Afrique, 102.4 FM, notre fréquence à Ouagadougou.
Quand le désert avance, c'est la vie qui s'en va. La faute a pas de chance, ou Dieu qui nous foudroie.
Exemple concret de la lutte contre la désertification et l'avancée du désert. Au Mali, la ville de Bourem, dans la région de Gao, est envahie par le sable. L'ensablement est tel qu'il est devenu un frein au développement économique, social et culturel pour tout le cercle de Bourem. La circulation est difficile et les eaux du fleuve sont menacées. Les habitants de Bourem ne savent plus quoi faire. Reportage de notre correspondant au Mali, Kassim Traoré.
De nos jours, dans le cercle de Bourem, il n'est pas rare de voir des dunes de sable de 30 mètres de haut qui s'étendent sur une distance de 2 km, ce qui rend la circulation difficile dans le cercle de Bourem. Cette situation a des conséquences pour les populations. Drissa Maïga, directeur régional des eaux et forêts.
L'ensablement a contribué à baisser les productions agricoles. Le problème de l'ensablement, comme je l'ai dit, a touché le transport fluvial. L'ensablement a contribué à combler toutes les mares qui constituent les zones privilégiées où les animaux s'abreuve. C'est donc un problème. Et étant donné que sans l'eau, les pâturages sont quasiment inexploités, vous comprendrez que c'est vraiment un problème au niveau de l'élevage aussi.
À l'entrée de Bourem, pour ne pas dire à Bourem Zindo, au bord du fleuve Niger, les femmes se battent avec des palissades contre l'ensablement. Aminatou Kowa, présidente de l'association des femmes de Bourem Zindo.
Nous fixons ces dunes de sable pour notre survie. Nous n'avons pas le choix parce que nous sommes menacés par l'ensablement.
Tout au long de la route, c'est-à-dire de l'entrée de Bourem à l'intérieur de la ville, ce sont des maisons envahies par les sables. Les habitants impuissants ne peuvent rien contre l'ensablement. Même l'école de la ville n'est pas épargnée. Mais les enseignants et les élèves se débrouillent pour suivre les cours.
J'aimerais vous demander d'abord, qu'est-ce que c'est que l'environnement d'abord?
L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure, comme la terre, le fleuve et les animaux.
Cet ensablement-là est dû à quoi?
Il y a aussi la progression des sables, l'envahissement du sable.
Même les bâtiments administratifs sont engloutis par les sables. Le cimetière n'a pas été épargné, ce qui rend l'identification des tombes difficile. Au centre de santé, le mur et le sable ont la même hauteur. Aïdara Aïssata Sissé, député de Bourem.
Pendant ce temps, les populations continuent à mourir de faim. Pendant ce temps, le développement est freiné. Pour l'ensablement, on ne se rend pas compte qu'il y a des gens qui meurent tout simplement parce que le développement est freiné. Tout simplement parce qu'ils ont faim, tout simplement parce que je crois que de mon point de vue, ce qui devait être fait pour freiner l'ensablement n'est pas fait. Alors, vivement Taoussa.
Face à l'ensablement, les élus de la localité ont enclenché un combat. Amadou Touré, maire de la commune de Bourem.
Si vous ne vous battez pas contre cet ensablement-là, justement, vous ne pourrez pas vivre dans cette zone. Mais je dois dire que la bataille contre l'ensablement dépasse totalement les possibilités même de nos populations.
Si les autres populations du Nord font face à l'insécurité, la première bataille à livrer dans le cercle de Bourem est la lutte contre l'ensablement. Une bataille qui n'est pas facile à gagner. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Issia Kaba. À la technique, Tian Wang. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Et un peu de nostalgie pour finir l'émission avec USA for Africa qui chantait We Are the World, première chanson caritative pour collecter des fonds pour lutter contre la famine en Éthiopie. Une chanson écrite par Michael Jackson et Quincy Jones. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur VOA Afrique ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter. VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous. So
of hell.